au moment où on, quand on parle, on accomplit quelque chose, c'est une énonciation. On énonce. Et si on veut attraper l'énonciation, ben il faut qu'on dise quelque chose ou qu'on écrive quelque chose après. Bon, mais à ce moment-là, on est de nouveau soit dans une énonciation, soit dans une scription, mais c'est plus là qu'on décrit quoi. On décrit. On est en retard d'une étape, vous voyez. Et donc le sujet de l'énonciation, c'est foncièrement l'énonciation. C'est pire que 25 images par seconde au cinéma. On est toujours en retrait, on est toujours en train de courir après son énonciation. C'est ce qui constitue le sujet de l'inconscient de la manière la plus certaine. Impossible de se connaître. On peut se reconnaître comme sujet de l'énonciation, mais on ne peut pas se connaître comme sujet de l'énonciation. Celui qui parle, il est tout le temps en train d'échapper à ce que celui qui dit, dit. Ce qui se dit, voyez-vous, le fait de dire, dit Lacan, reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. On est toujours en train de courir après. Et l'enfant, il s'aperçoit très bien de ça, que les parents, ils sont dans cette situation où il y a quelque chose qui leur échappe, c'est même le pouvoir, l'autorité de la parole. Il y a quelque chose de l'autorité du pouvoir. Je vous dis, ça va fonder le Père Noël. Mais ça, c'est pas le père, ce que je suis en train de vous dire. C'est la fonction phallique. C'est la fonction de la parade, de l'autorité, de la prestance de la parole. En aucun cas ne confondez ça avec la... C'est pas du tout... Ça, il faut être les crétins là, qu'on a aujourd'hui pour croire que c'est ça le père. Le père, c'est pas du tout ni l'occasion du trauma, ni l'occasion de... ni l'autorité, comme ça, une espèce d'autorité qui serait, disons, un impératif. Voilà. L'impératif, on va faire du surmoi avec l'impératif. Il y a un aspect impératif de la parole. La parole est impérative. C'est Brice Parrain, le seul auteur français que j'ai lu, qui dit « Nos paroles sont des ordres ». Quand on parle, il y a toujours quelque chose d'impératif. Et les enfants, ils sont très intéressés par ça, parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne comme ça. Que même si on veut être critique, comme on dit, ça marche quand même. Même d'ailleurs, la critique, c'est ça, c'est une réponse inversée à l'autorité de la parole. Et la parole est toujours une autorité. Il y a un aspect, un abord, une approche impérative du signifiant parler. Et ça donne lieu à quoi ? Ça donne lieu à une coupure comme ça. Ça fait un événement. Mais la coupure, si ça se produisait dans du plan ou dans la sphère, dans du tore, ça resterait. L'enfant, il reste. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. On appelle ça comment ? Autiste. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans le jeu politique du mensonge, de la parole, de l'autorité, de la discussion, non. S'il ne veut pas rentrer là-dedans, il semblerait que ce soit lié au discours ambiant, au discours de la famille, au discours de la civilisation. Si c'est sphérique, s'il considère que c'est sphérique, si c'est trop prosaïque, vous voyez pourquoi je parle de ça à propos de l'amour, si c'est trop prosaïque, et puis je parle des protestants, l'éthique protestante et le capitalisme, vous voyez, ça marche ensemble. Il y a un côté prosaïque comme ça qui fait que ça tombe à plat. Pour que ça fonctionne comme trauma, il faut que, et pour faire entrer le sujet dans le langage, il faut que ça se produise dans une bande de mobius. Et là, automatiquement, ce qui se met en place, c'est ce lien que Freud va dégager dans son texte qui s'appelle, qu'il a intitulé « De l'autre côté du principe du plaisir ». Il ne parle pas de la répétition là, pour la première fois là. La répétition, il en parle avant, par exemple, dans « Remémoration, répétition, perlaboration ». Vous voyez que ce n'est pas le dernier mot, puisqu'il met encore « perlaboration » après. Mais il y a quelque chose qui, dans le... Vous voyez, qu'est-ce que nous dit Freud de la bobine, du jeu du petit enfant avec la bobine ? Il nous dit, le petit gamin, c'était son petit-fils, il jetait déjà tous les jouets sous le lit. C'était un bordel pour ranger sa chambre. Sa mère, la fille de Freud, elle se plaignait que l'enfant, tous les jouets de l'enfant passaient sous les meubles, sous la commode, sous le lit. Et Freud fait remarquer qu'à un moment donné, il a amélioré le jeu avec le fil entre la bobine et lui. Voyez. Et qu'est-ce que c'est l'amélioration ? C'est le fil. Le fil, c'est le lien de la répétition. Voyez, le fil, c'est ça. Le fil de la bobine, c'est ce demi-tour. Le fil de la bobine, c'est ce qui fait que les deux points C'est ce que ne comprennent pas ceux qui ne veulent pas entendre ce que dit Freud du désir, cette répétition. Hein? C'est même pas la question de la compulsion. Tout de suite, on en parle mal. Compulsion. Alors déjà, on avait pulsion pour traverser trip, vous voyez la déformation. Et maintenant, alors, on peut ajouter aussi pulsion, compulsion. Allez, bon, bientôt, ça va être la camisole de force, hein, si c'est la compulsion de répétition, vous voyez. Il va falloir arrêter ça. Bon. Alors, on favorise la folie, quand même. On favorise ceux qui s'y croient et qui considèrent que s'ils ont une compulsion ou une pulsion, ils doivent faire ce que leur dit la pulsion. Mais c'est une démission totale. C'est des fous, c'est des belles âmes, vous voyez. Les choses, je suis un pur organisme vivant et je dois vivre en fonction comme une girouette du temps. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a cru comprendre Freud. Et puis alors il y a les autres qui pensent qu'au contraire le signifiant c'est une mécanique comme Mammon, vous voyez, et que donc du coup ça va être aussi si c'est déterminé mécaniquement le déterminisme, vous voyez, par la montre, par la machine. Alors le psychotique, il croit qu'il est une machine, c'est pour ça qu'il ne lit pas. Il ne lit pas parce qu'il croit qu'il est une machine. Il dit pourquoi je ne serais pas une machine comme un ordinateur, puisque je parle, et les ordinateurs, il paraît qu'ils parlent. C'est pas vrai. Ils ne parlent pas. On peut produire des localisations, des localités de discours. Ils peuvent écrire. C'est des machines à écrire qui écrivent toutes seules. Mais elles ne sont pas sujets du langage, vous voyez. Et puis, le névrosé, en général, et le pervers, lui, il se prend pour une plante. C'est la folie ordinaire, vous voyez. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de vivre comme au milieu des bêtes féroces? Je vis dans la jungle, j'ai peur de tout le monde. D'ailleurs, je reste chez moi, ça s'appelle une phobie. Je ferme la porte à clé, et quand je suis chez moi, au moins, les bêtes féroces sont dehors. Puis le pervers lui disait, pourquoi je ne serais pas une bête féroce? J'ai envie de découper ma femme en morceaux. Voilà, pourquoi je ne le fais pas? Et voilà le genre de question. Ben, c'est justement ça qui est intéressant. On ne le fait pas toujours. Pourquoi? C'est la même chose que le suicide. Pourquoi est-ce qu'on se suicide pas? Je vous dis, vous ne pouvez pas dire à une enfant de 18 ans, anorexique, qui est en train de crever et qui est sous perfusion, vous ne pouvez pas lui dire, faut manger parce que ça va te permettre de vivre. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, arrête de boire, arrête de jouer. Vous voyez bien que ce n'est pas une histoire de plantes ni d'animaux. Le jeu, l'addiction au jeu. Allez voir ce très beau film de Jacques Demy qui s'appelle La Baie des Anges avec Jeanne Moreau. Vous allez voir des gens qui crèvent parce qu'il y a le casino. Hein. Le tapis vert, là, vous voyez, comme les hooligans avec la pelouse verte. Vous voyez, c'est très curieux. Le tapis vert et la pelouse, ça fait comme ça, ça fait jeu. Hein. Ça fait quelque chose. Il y a des addictions qui conduisent à la mort. Bon. Mais il y en a plein d'addictions. Pareil pour l'anorexie. Donc la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle dit? Mais bah, écoutez, découper les autres en morceaux, ça s'est fait, ça peut se faire. Les sœurs Papin, elles ont massacré à cause de la répétition leur patronne. Bon, ça existe, le crime paranoïaque existe. Mais justement, mais la question c'est que pour bien parler, il faut dire oui, mais vous allez vous tuer, vous allez tuer quelqu'un, mais vous savez pas pourquoi. Oui, parce que, alors seulement voilà, quand une civilisation qui s'assied sur le savoir, qui n'en a rien à foutre du savoir, qui s'intéresse qu'à la vérité de panache, là comme ça, pour faire le fier, le beau, l'énonciation, la loi de la parole, vous voyez, pour frimer, bon, ça c'est hein, pour faire. Il en faut hein, pour sauter à la perche, pour apprendre à danser, à faire des claquettes ou même des pointes, il faut qu'il y ait du. Il faut qu'il y ait du panache, du désir, du côté aussi imaginaire, de la fonction imaginaire du phallus. Mais c'est une fonction imaginaire du phallus symbolique. Et ce n'est pas forcément de l'autre côté une machine. Donc le point, alors que c'est nous, le sujet du langage, qui sommes les seuls dans l'espèce animale à fabriquer des nouvelles machines. Hein. Trouvez-moi une. Vous pouvez me dire que le castor, il utilise sa queue pour. Comme un levier, c'est une machine simple. Hein. La poulie, le plan incliné, peut-être que les animaux utilisent le plan incliné. Il y a des leviers dans le corps, vous voyez, il y a des leviers. Mais il n'y a pas de machine dans le corps. Nous fabriquons des machines, nous inventons des machines. Ça commence sérieusement, d'ailleurs, avec la machine qui s'appelle la vapeur. Hein. Je m'appelle vapeur, mais moi, ça vient d'apiculteur, pomme de peau, pour ceux qui font des blagues, sur le nom du prof. Moi, je viens des apiculteurs. Je suis un hystérique des piqûres d'insectes. Donc, je n'ai rien à faire avec une femme vaporeuse.
Vous savez, je vais vous en raconter une bien bonne, c'est le jour où il a été affiché partout dans les murs de la maison de la chimie un signifiant nouveau. Lacan, il avait dit, quand vous verrez sur les murs un signifiant nouveau dans son séminaire, et c'est arrivé 9 ou 10 mois après, parce que le séminaire était justement publié dans Ornicard, donc il y avait un signifiant nouveau qui pullulait sur les murs de la maison de la chimie. Quand vous verrez sur les murs un signifiant nouveau, c'est que j'aurai découvert quelque chose, dit Lacan. J'aurais trouvé quelque chose. Bon. Alors là, c'était un colloque, il y avait partout un signifiant nouveau. Bon. C'est un peu ambitieux de la part de mes éditeurs d'avoir été si vite. Et alors il y a un type qui est un responsable de la revue Ornicard qui vient me voir et qui me colle 2 numéros de la revue dans les mains. Comme ça, il me dit, voilà, tenez. Voilà, ça c'est pour vous, un peu méprisant parce que je suis quand même une bête pas trop fréquentable. Il avait un peu, ça dégoûtait de me donner 2 numéros, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il me dit oui. Alors je lui dis, mais pourquoi vous me donnez 2 numéros? Eh bien, je suis abonné, moi je reçois chez moi votre revue. Et il me dit, mais non, mais tous les gens qui ont écrit un article dans la revue ont droit à 2 numéros, gratis. Alors, moi je suis un méconnaître, je suis un peu con, mais. Bon, donc je lui dis, mais moi j'ai pas écrit de numéro dans votre revue. Ça. Ah, il dit, ah bon, oh, il me reprend le titre, les numéros des mains. Comme au rugby, oui, c'était génial, quoi. Et, bon, je rentre chez moi, j'avais mon numéro que j'ai reçu, qu'est-ce qu'il y avait? J'avais pas écrit, mais il y avait un article sur les femmes vaporeuses. C'est joli le signifiant, oui. Donc, tout de suite, lui, on voit très bien où est-ce qu'il se casait, c'était vaporeux. Les vapeurs, bon. Lacan parle hein, d'un homme vaporeux. Ça c'est vapeur. Ça c'est vapeur, ouais. Bon. C'est de la fumée. Bon. Voilà ce qu'il pense de moi. Bon. Et Lacan parle hein, d'un type vaporeux dans le discours à l'EFP sur la passe. Vous savez, quand il défend son projet de passe, hein, il fait tout un exposé, il parle d'un homme vaporeux qui est devant une grille et qui marque une croix à la craie, comme ça, sur la grille. Vous voyez, il marque sur un bâton de la grille, un barreau de la grille, il marque une croix à la craie, et puis il compte les barreaux hein, de la grille. Bon, et puis il finit par faire un tour, on ne sait pas lequel, mais il revient au premier barreau, puisqu'il retrouve la croix qu'il a dessinée à la craie. Alors le mec, à ce moment-là, il gueule, « Oh les salauds, ils m'ont enfermé !» Ah oui, parce qu'il y a une grille, il a compté tous les barreaux, et il revient au point de départ. Oh, les salauds, ils m'ont enfermé. Et Lacan fait remarquer, il dit oui, mais le mec, il est au pied de l'obélisque de la place de la Concorde, et il a toute la place de la Concorde pour lui. Bon, c'est ça ce qu'il appelle un personnage vaporeux. Alors, il est enfermé dehors. Et c'est pour ça que Solal Rabinovitch, qui est une amie, elle a écrit même un livre qui s'appelle Enfermé dehors, et elle dit que moi, je suis, elle, pas dans son livre, mais elle m'a dit, elle me dit que quand elle parle de quelqu'un d'enfermé dehors, c'est moi dont elle parle. Bon, donc, je suis vraiment vaporeux pour ces gens. Ben, c'est pas le cas, parce que ça vient de apiculteur, apia, hein, apia c'est en latin, et ma famille, elle vient du Gâtinais, près d'Orléans, au nord d'Orléans, à Cher-le-Marché, à Cher, dans le parler du coin, ça veut dire ruche. Ils font que du miel. Il y a un tiers du village, c'est des gens qui sont apiculteurs, qui sont vapeaux et qui. Le cimetière, si un jour vous passez par là, allez voir le cimetière La Cher-le-Marché, vous verrez, il y a un tiers de vapeaux, un tiers de Dumas, un tiers de Guérin. Hein? Et quand vous demandez à l'épicier du coin s'ils sont sympas les vapeaux, il dit ouais, comme tout le monde, enfin. Est-ce qu'ils sont un peu aimables, hospitaliers? Non, comme tout le monde, il vous dit comme tout le monde, vous savez. C'est des gens qui sont des paysans, hein. Et ben ils sont là depuis les Romains. Et c'est vraiment des gens qui n'ont pas d'histoire. Mes ancêtres, ils n'ont pas d'histoire. Là, je m'en vais un peu loin parce que l'histoire, ça commence avec l'exode, avec l'immigration. Vous voyez, quand vous expatriez, ça commence l'histoire. Mais ben, moi, je suis d'une famille d'apiculteurs sans histoire. Ils ont fait du miel, les cons, hein, vraiment, au même endroit pendant des générations. Ils n'ont jamais eu l'idée. Vous voyez, mon grand-père, il a immigré de Cher-le-Marché au nord d'Orléans à la Ferté-Saint-Aubin au sud d'Orléans et ensuite à Paris. Parce qu'il était un peu alcoolique, un bracho. Bon, voilà. Il avait perdu sa belle boucherie à Orléans. Et c'est le premier, à cause de du monde industriel, à cause de du monde moderne, c'est le premier qui a quitté le miel, quoi, qui a quitté les ruches à chair. Donc tout ça pour vous dire que s'il y a des gens, je fais comme Cyrano, et s'il y a des gens qui veulent faire mon analyse, qui viennent me voir, moi je suis assez grand pour la faire tout seul, enfin tout au moins avec un autre, mais sans eux. Parce que moi, mon analyste, il ne faisait pas mon analyse, il me servait pour que je fasse mon analyse. Bon, donc voilà, le transfert, ça n'oblige pas à analyser, et analyser, commencer à apprendre à lire, c'est une décision du sujet. Vous ne pouvez pas lui faire prendre la décision, vous ne pouvez pas prendre la décision à sa place. Hein. Bon. Mais c'est vrai qu'on ne s'analyse pas tout seul. Dans le freudisme, il n'y a pas d'auto-analyse, pour la raison suivante, c'est plus simple, c'est que le langage, déjà... Vous voyez, il y a un type en Argentine qui vient de m'interroger pour une revue. Il m'a fait une interview sur la psychanalyse et ses professions. Et une des questions qu'il se pose, ces gens, c'est pourquoi y a-t-il pas de tiers ? Parce qu'ils veulent des garanties. Ils voudraient, vous voyez, la profession, il faut donner patte blanche, il faut donner des diplômes. Enfin, faut évaluer, faut quoi. Alors, donc, ils cherchent. Alors, il dit, Freud, il dit qu'il ne doit pas y avoir de tiers dans l'analyse. Extraordinaire, moi j'ai jamais vu ça, mais ici, lui, tout à coup, il vous explique qu'il ne faut pas tirer un puisque Freud refuse qu'on vienne enregistrer ou que quelqu'un assiste à la séance en tiers. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tiers ni d'altérité dans l'analyse, ça veut simplement dire qu'on ne veut pas un espion, un flic, un témoin. Ça, il est exclu qu'il y ait un témoin tiers. Hein, entre, il y a deux personnes qui se rencontrent dans un endroit clos. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas de tiers ? Le langage, c'est nécessairement l'altérité. Je vous dis, même comme sujet de l'énonciation, vous n'avez pas, vous pouvez passer votre temps à vous courir après. Alors, vous avez toutes les choses. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'auto-analyse, parce que c'est jamais, le langage, c'est jamais auto. Hein? La culpabilité, c'est auto, là. Ce qui est auto, je vous dis, c'est de se faire du tort. On s'autorise. Ça, c'est très facile. Ça, c'est le névrosé. Hein. Le névrosé, il se fait du tort avec son surmoi. Hein. Et les pauvres, l'analyste, il faut guérir ça. Bon, ça, c'est des choses qui ne se guérissent pas, ce qui s'arrête. Si on décide d'arrêter de se faire du tort, eh bien, on arrête de se faire du tort, et si on continue à se tirer dans le pied, Donc voilà des vérités premières qu'il faudrait quand même préciser pour arriver à rentrer dans l'intérêt de ces calculs. Hein. Alors, ces calculs, c'est quoi ? C'est comment est-ce que nous allons définir cette modification de l'intersection qui s'oppose à l'intersection classique, vous voyez, qui est comme ça. Hein ? Si vous prenez les deux disques en les approchant un peu moins, eh bien, dans ce cas-là, vous avez bien une intersection. Les deux disques, si vous les rapprochez, vous avez bien une intersection. Et vous avez ici une partie verte et une partie rouge. Alors la partie verte est là, et la partie rouge est bloquée. Et elles se superposent et elles font apparaître une partie bleue qui s'appelle intersection. Ce qui modifie cette intersection, c'est les deux trous A' qui vont rentrer dans l'intersection et qui vont faire apparaître la répétition. Donc c'est la séparation, c'est la condition. Bien écrire cet opérateur de séparation, hein, c'est écrire, c'est aller vers le chemin de l'écriture de la répétition. Freudienne. Ici, il y a deux trous. Et là, si vous continuez le mouvement, alors j'efface la formule du fantasme, hein, vous avez figé. Hein. Donc dans le fantasme, il y a deux termes avec une relation de Poinçon, mais en fin de compte, il y a trois termes. Hein, vous avez pigé. Bon. Et si vous continuez le mouvement et que vous faites se superposer les deux trous et les deux disques, et bien tout est bleu. Et là, vous avez le trou A'. Bon. A'. Et vous avez S et A qui se superposent. Bon. Eh bien, ces deux situations-là, ça va vous donner le schéma I. Vous avez dans le schéma I, qui est comme ça, le schéma I, il est comme ça sur la bande de Möbius. Hein. Vous voyez, vous allez avoir quelque chose comme ça. Oui, vous allez avoir quelque chose comme ça. Je vais vous le C'est comme ça. Et ici, il y a un trou, et ici, il y a un trou. Voilà. Bon, et ici, il y a les asymptotes, et là, il y a le bord de la bande. Donc, ça, ça fait un trait de plus. Non, excusez-moi, j'ai fait un trait de trop. On va faire plus simple. On va enlever ça. Voilà. Alors, je vais mettre des traits en bleu pour mettre les asymptotes en bleu. Pour marquer où est la partie hachurée qui nous intéresse dans l'intersection. Vous voyez ? Ça, c'est la partie bleue qui est là, ici. Voilà. Alors, hop, comme ceci. Comme ceci, voilà. Bon, et là, il y a un trait blanc. Donc voilà, ça vient ici, comme ça. C'est le même dessin que là-bas, mais il y a un peu plus de traits. Bon. Alors, où sont les couleurs rouges et la couleur rouge et la couleur verte? Eh bien, elles sont dans ce disque-là, regardez. Ça, c'est vert. Ah non, ça, c'est bleu. Hein. Ça, c'est vert, regardez. Ça, c'est la couleur verte, ici. C'est la zone que Lacan appelle symbolique. S. C'est déformé par rapport au schéma R. Ça va vous donner le schéma R. Ça, c'est là qu'on va pouvoir discuter d'une nouvelle lecture du schéma R avec la répétition et la séparation et la répétition. Et vous avez du rouge. Alors, la différence avec ces disques, c'est que là, les deux disques, dans le schéma I et sur le plan projectif, on va voir ça la semaine prochaine, comment ils sont superposés l'un et le dos de l'autre. Mais quand vous pliez en deux le disque unique, avec les deux trous, A et A prime, voilà. Donc, les hachures, elles sont là, regardez. Les hachures bleues, elles sont ici. Ça, c'est le schéma I. Il y a un trou, mais ce que personne ne voit dans le schéma I tel qu'il est dans les écrits, c'est ce que j'ai montré dans Eitoff, dans la conclusion de Eitoff. J'ai montré quoi? Que le trou de la bande de Mobius, vous voyez, il est là, et Lacan, il met A ici et A prime ici. Non, il met A prime ici et A là. Bon, peu importe. Vous avez ici, vous avez un trou, c'est le vide autour de la bande de Mobius. Ici, vous avez un trou qui s'appelle P0. C'est le fameux nom du Père, le signifiant du nom du Père qui est fort flou. Et là, vous avez un trou qui s'appelle Φ0. Hein? Bon. Moi, je vous dis que dans mes disques, ça et ça, qui s'appellent A et A', ici, dans cette situation bêta, ça va être la situation où on a Φ0 et P0 en place de A et de A' qui correspondent à cette étape-là. Et A prime, le trou qui est autour, vous voyez, ça c'est une bande de Mobius avec deux trous. Dans une bande de Mobius avec deux trous, c'est un plan projectif avec trois trous. Je dessine comme ça. Ça, c'est les schémas de Griffith qui sont dans Eitoff. Vous voyez, il y a un trou ici, un trou T, un autre trou T, et puis là, vous avez le trou T'. Vous avez T'. Vous avez trois trous. Un trou qui, lui, est un double trou, parce que c'est l'espace qui est autour et le trou lui-même, tout ça étant un seul trou. Pourquoi c'est un seul trou dans la théorie des surfaces? Parce que, regardez, ici, c'est un seul bord du fait de cette torsion. Vous voyez? Ça, c'est un espace. Ça, c'est une bande de Mobius. Hein. Là, il y a la bande de Mobius en entier. Vous voyez? Ça, c'est la surface intrinsèque. Bon, j'ai expliqué ça, c'est une méthode pour étudier ces choses-là que j'ai expliqué dans l'époque. Bon. Voilà une bande de Mobius avec deux trous, c'est une surface à trois trous. Si vous bouchez les trois trous, vous avez un cross-cut, vous avez un plan projectif sans trous. Il y a trois trous, et bien les trois trous, ils sont là. 1, 2, 3. Hein? Mais le fait que ça va être tordu, le trou, ici, A', il va être à l'extérieur. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse, c'est maintenant montrer que le mouvement des disques hein, qui s'appelle alpha, bêta, delta, phi, ces quatre étapes, ça c'est le schéma R et ça c'est le schéma I. Ces deux-là, c'est le schéma I. Et ça, c'est le schéma R. Ça donne une nouvelle lecture. Comment on va faire ? On verra ça la semaine prochaine. Ça veut dire que le schéma, la réalité psychique dans le schéma R, la réalité psychique dans le schéma R, vous voyez, dans le schéma R, Lacan, regardez, je vous mets du bleu pour vous mettre la réalité psychique en bleu. Voilà, la réalité psychique, elle est là. Vous avez le symbolique ici. Hein, et puis vous avez l'imaginaire là. Ah ben c'est le contraire. Encore une fois, je me gourre. Voilà. Donc ça, c'est ici, c'est le symbolique en vert. Hein, puisque vous avez grand A qui est là. Grand A, il est là. Et vous avez le S ici. Mais ça, c'est en l'imaginaire. Bon. Ça, c'est l'imaginaire qui. Ça, c'est le symbolique S, et ça, c'est la réalité psychique R. Et si vous regardez bien le schéma R de Lacan, vous verrez que A' est là, et A est ici. C'est dans la zone R, comme ici. Vous voyez ? Seulement, dans le schéma R, Lacan ne les a pas dessinés comme des pastilles sphériques avec les couleurs. Mais A et A' sont là, et A et A' sont là dans le schéma I. Bon, tout ça, c'est ce que j'ai étudié dans Etoff. Ça fait déjà pas mal d'années, c'est le coup. J'ai publié Etoff en 88. Hein, bon. C'est encore assez nouveau parce que, vous voyez, maintenant j'apporte un nouvel élément. C'est le fait que la partie qui est ici dans le schéma R et qui va se trouver ici trouée et déformée comme une caricature dans le délire de Schreber, d'après Lacan, ça, cette partie-là, bleue, cette réalité psychique, elle est trouée. Ben, vous voyez, c'est une intersection. C'est l'intersection, c'est la superposition. Des deux disques qui commencent à faire apparaître la réalité psychique. Alors comment est-ce qu'on va ? La question que je voudrais traiter la semaine prochaine, c'est comment passer de ces disques, vous voyez, comment passer de ces disques à ces surfaces ? Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est extrêmement simple. La seule chose compliquée, c'est l'étude de ça qui est dans Etoff, vous voyez, ça fait déjà 88, 98, 2008, ça fait 20 ans, ça fait 22 ans que j'ai fait ça, hein, j'étais jeune, hein, plein d'espoir, naïf, hein, un truc à se suicider. Heureusement que je n'étais pas si naïf que ça et si plein d'espoir, comme ça je suis toujours vivant. J'avais aucun espoir. Hein. Je savais toujours déjà que c'était des abrutis et des salauds. Bon, donc. Le problème, c'est que leurs travaux ne m'intimident pas. Parce que ils m'ont dit, direct, en 82, ils m'ont dit, nous, le savoir, on s'assied dessus. Hein, c'est ce que j'ai dit au colloque de ce cher Bruno. Hein. Ils m'ont dit, vous savez, Lacan est mort, maintenant, on peut batipoler. Il y en a un qui m'a dit ça, qui dit la même chose que moi, et qui le dit d'une manière plus polie, mais c'est monsieur... Comment il s'appelle, Baladier, et son prénom c'était comment, Robert, il était directeur de rédaction de l'Encyclopédie Universaliste, maintenant il est à la retraite. Je l'ai retrouvé, je l'ai recroisé, je l'ai revu, j'ai parlé avec lui à Strasbourg. Je ne savais pas qu'il s'intéressait tant à la théologie, dans l'université de théologie de Strasbourg, chez les théologiens catholiques. Mais il était vachement bien, il a publié des articles de Safouan, d'Israël, de Pierre Kaufmann. Des tas de gens très bien dans l'Encyclopédie Universaliste. Il y a des. Dans l'Encyclopédie Universaliste, on a un article sur la construction d'analyse de Pierre Kaufmann qui est excellent. D'ailleurs, l'Encyclopédie en question a fait un volume avec tous les articles qui concernent la psychanalyse. Genre bouquin, vous voyez, les trucs un peu, des livres un peu mous. Hein,
bon. C'est excellent.
Ça s'appelle psychanalyse. C'est l'Encyclopédie Universaliste et ça s'appelle psychanalyse.
Non, ça s'appelle l'apport freudien, non ?
Non, non, non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est.
Le Kaufmann, là, tout.
Ah non, non, mais ça c'est chez Bordas. Il n'a pas fait que ça, Kaufmann, dans sa vie. Vous confondez, à bord freudien, c'est chez Bordas, de Kaufmann.
Il y a tout le monde, il y a tout le monde,
mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Je me suis en train de vous parler de l'encyclopédie universaliste qu'on vend, vous savez, dans les marchés, par abonnement, par volume.
Oui, oui, oui.
Bon.
Que personne ne lit.
Oui, bon, sauf que moi, j'en ai photocopié pas mal des articles. Il y a des trucs vachement bien dans l'encyclopédie universaliste. Sur la topologie des variétés. Qui s'appelle topologie topologie différentielle, là, vous avez tout à fait les graphes, les surfaces et les nœuds. C'est très bien expliqué. Hein. L'article de théorie des ensembles aussi, il est vachement bien. C'est du Krivine. C'est très simple. C'est du Krivine.